Aujourd'hui, je vous propose de parler de l'avarice, un des sept péchés capitaux. L'avarice, évidemment, quand je vous dis l'avare, vous pensez tout de suite à Molière, cette mise en scène formidable d'un avaricieux, et vous comprenez bien que c'est un péché capital, puisque à cause de son péché, l'avare va devenir misanthrope, méchant, violent, etc. On comprend bien que la mise en scène est parfaite de Molière. À partir d'un péché comme un autre, en quelque sorte, vont naître une foule de péchés. C'est ce qu'on appelle un péché capital, c'est-à-dire une source de différents péchés. Alors, qu'est-ce que l'avarice? Eh bien, l'avarice, c'est l'amour et le désir désordonné des richesses et des biens. Alors, comme toujours, il faut déjà se garder d'une... On est toujours excessif un peu par nature, ou trop prudent par nature. Ce sont deux erreurs en un sens. La prudence, je vais en parler, puisque je vais voir comment on peut pécher par avarice, mais j'élimine tout de suite la question de l'excès. Il ne s'agit pas de penser que les biens sont mauvais. Il ne s'agit pas... La morale chrétienne ne nous dit pas, ben voilà, si vous voulez aller à Dieu, tous les biens sont mauvais, c'est, voilà, chaque bien que vous possédez, que vous touchez, se crucifie, voilà, tout ça c'est mauvais, c'est les biens de ce monde. Non. Nous en avons besoin des biens de ce monde, nous en avons besoin pour vivre. Voilà, pour venir jusqu'à vous, j'ai pris le métro, il a bien fallu que j'achète un billet de ticket de métro, il a bien fallu que, etc., etc., enfin, voilà, que je me vêtisse, sinon j'aurais de nouveau attrapé froid, et bon. Donc voilà, on est bien de ce monde, on en a besoin. Bon. Alors, la difficulté, effectivement, c'est comment en user pour Dieu, comment s'enrichir en vue de Dieu, comme dit l'Évangile, eh bien, voilà, comment éviter donc d'avoir ce désir et cette possession désordonnée des richesses et des biens. Alors, comme à l'accoutumée, maintenant, je vous ai listé différentes manières de pécher par avarice, comme ça on va faire un petit tour... tour de piste, si j'ose dire, des différentes manières d'être avaricieux. La première manière, c'est peut-être pas celle à laquelle vous auriez pensé immédiatement, c'est désirer le bien d'autrui. C'est le dixième commandement, tu ne convoiteras pas le bien d'autrui. Eh bien, c'est une certaine manière, une avarice, c'est-à-dire vouloir avoir ce désir des choses qui ne nous appartiennent pas et de les désirer, les contempler, de manière pécamineuse, attention, hein, voir aller dans un tableau, dans un musée ou aller chez des amis, voir un très joli tableau accroché au mur, ah, et de se dire qu'il est beau, c'est pas un péché. Se dire encore, si j'en avais un si joli dans mon salon, ça me ferait plaisir, c'est pas un péché. Là où le péché commence, c'est quand je vais passer le Rubicon du crime, c'est-à-dire vraiment, il n'est pas juste qu'il soit là, finalement. Il n'est pas juste que mon ami ait ce joli tableau. Il n'est pas juste que ça soit dans ce musée. C'est chez moi qu'il devrait être. Là, ça y est. Là, ça y est, j'ai péché. Vous voyez ? Donc, alors à quoi nous entraîne ce désir des biens d'autrui ? Eh bien, ça peut nous entraîner au vol. Hein, quand vous finissez par penser que votre ami est trop bête, finalement, il n'a aucun goût, et il ne mérite pas le beau tableau qui est chez lui, vous pouvez très bien lui prendre, après tout. Hein, parce que il ne le mérite pas. Vous, évidemment, vous, oui, vous êtes un esthète. Hein, alors, vous avez le droit. Voilà. Donc, ça s'appelle du vol. Donc, le désir du bien d'autrui peut nous amener, ce désir désordonné, peut nous amener à violer la propriété d'autrui. Mais vous pouvez aussi ne pas respecter l'utilisation d'autrui. Sans voler les biens, vous pouvez les retenir indûment. Vous en servir. Voilà. Oui, j'ai un téléphone que m'a donné mon directeur, mais voilà, ben justement, ça tombe bien, pour mon travail, bien sûr, et ça tombe bien, il fallait que j'appelle ma famille, qui est allée au bout du monde, moi, mon frère est aux Antilles, alors, voilà, je vais l'appeler longuement avec mon téléphone, mais est-ce bien juste? Est-ce que c'est simplement parce que j'ai un désir désordonné de mes biens que j'ai pas voulu simplement appeler mon frère sur mon téléphone, ce qui est tout à fait logique, et lui donner un petit peu de mon temps, et donc de mon précieux argent, que je préfère que ce soit, évidemment, mon employeur qui paye. De toute façon, ça fera une facture générale, et on ne verra pas. On doit avoir quelques clients aux Antilles aussi, donc voilà, ça va marcher comme ça. Ben voilà. J'ai, c'est une escroquerie hein, en fait, hein, j'ai utilisé indûment, j'ai retenu le bien d'autrui, alors que je n'aurais pas dû. Voilà la première manière de pécher par avarice. Deuxième manière de pécher par avarice, c'est celle à laquelle vous pensez habituellement, c'est ce qu'on appelle l'épargne excessive. Hein, c'est Picsou. Voilà. Donc, c'est, si vous êtes fan de BD un petit peu ancienne maintenant, hein, c'est fan de Picsou, c'est faire des réserves de manière déraisonnable. Hein. Alors, une fois de plus, je le redis, il faut faire des réserves. Hein, en fonction de notre vie. Alors, moi qui suis célibataire, qui ai consacré ma vie dans l'église, bon, j'ai moins besoin de faire des réserves que si j'étais marié avec des enfants, etc. C'est évident. Donc chacun fait des réserves en fonction nécessaire, en fonction de la vie qui est la sienne. Hein, si vous avez une maison, il faut pouvoir l'entretenir, faut mettre 2-3 sous de côté pour payer les impôts immobiliers, pour etc., etc. Tout ça n'est pas un péché. Hein. Ce qui est un péché, c'est cette épargne excessive qui fait que je vais pécher soit contre la justice, soit contre la charité. Par exemple, contre la justice. Eh bien, parce que j'ai un souci excessif de l'épargne, je ne vais pas payer, le prix juste à ceux qui travaillent pour moi, hein, parce que de toute façon, ça veut dire quoi? Ils méritent moins l'argent que moi. Hein, je suis injuste. Il y a le salaire a un prix, eh bien il faut le payer. Voilà. Si sous prétexte que vous connaissez la personne très bien, alors bah, vous lui paierez la moitié du prix. Voilà, bah, c'est pas juste. En fait, c'est pas parce que vous la connaissez bien, c'est parce que vous êtes près de vos sous et que vous voulez pas débourser, vous voyez. Hein, ça s'appelle avoir des oursins dans les poches. Eh bien, voilà, ne pas vouloir donner ce qui revient en toute justice pour le travail de quelqu'un, pour son engagement, pour voilà, ce qui doit lui revenir. Même à l'État, hein, si vous payez pas vos impôts, c'est de l'avarice. Vous devez payer une quote-part de vos impôts. Alors, vous avez le droit de râler parce que c'est toujours difficile de faire un chèque. Vous avez le droit de penser que ça pourrait être mieux utilisé. Ben, engagez-vous en politique, votez, etc. Enfin, faites des choses pour que ça soit mieux réparti. Faites ce qui est possible. Mais vous devez payer vos impôts. Parce que c'est dû. Par exemple, si vous ne versez pas au denier de l'Église, ben, vous péchez contre la justice, par avarice. Parce que... les prêtres qui ont choisi la part de Dieu pour vous servir, eh bien, vivent de votre charité. Si vous ne donnez pas au denier du culte, eh bien, selon vos capacités, selon ce que vous pouvez, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste de venir m'écouter et de ne pas payer le denier du culte. Je suis payé par votre denier du culte, voyez-vous. Je vis, enfin je suis payé, c'est beaucoup dire. Enfin, en tout cas, j'en vis. Hein, voilà. Je vis très bien, hein, j'ai de quoi manger, je suis logé gratuitement, donc voilà. Voilà, donc c'est une question de justice. Il faut donner justement ce qui revient pour que la société, pour que l'Église fonctionne. Vous pouvez aussi pécher contre la charité. Vous voyez, la justice, c'est ce que vous devez donner. Alors, les impôts, on vous donne pas le choix. C'est fixé, le tarif est fixé. Le denier du culte, vous avez le choix. Vous avez de la chance. Donc c'est votre, selon ce que vous estimez pouvoir donner. Mais vous pouvez aussi pécher contre la charité. C'est-à-dire... finalement, en fermant complètement votre cœur à tous ceux qui vous entourent. Par avarice. Pas parce qu'au départ, vous n'auriez pas de cœur. On a tous un cœur au départ. Hein, d'ailleurs, les gens qui ont même le cœur le plus de pierre, ils ont toujours une petite tendresse pour eux-mêmes, au moins. Vous voyez, hein, ou pour leurs petits chiens, ou pour... voilà, ce qui leur coûte pas trop cher quand ils sont avaricieux. Donc... évidemment, on peut fermer son cœur petit à petit, partout, avec toujours plein de bonnes raisons. Il ne le mérite pas, on devient sans cœur, on n'a plus aucune compassion, hein, plus rien. On peut rien donner parce qu'on ne peut se séparer de rien. Ça devient un malheur total de sortir 3 francs 6 sous de son portefeuille. Enfin, 3 francs 6 sous de son porte-monnaie. Voilà. Donc, on peut aussi, à force d'épargne excessive, ben c'est parfaitement Picsou hein, qui laisse ses neveux va-nu-pied mourir de faim parce qu'il ne veut pas leur donner une part de la montagne d'or sur laquelle ils habitent. Troisième manière de pécher par avarice, la poursuite désordonnée du gain. Là, il s'agit plutôt d'une question d'obsession. Il y a des gens qui finissent par être obsédés par l'argent. C'est-à-dire que à la place des yeux qui permettent de voir des choses, eux, ils voient de l'argent. Voilà. Il y a des gens comme ça. C'est-à-dire que, avant de savoir si le manteau est bleu, s'il est en laine, s'il est en... Et combien ? D'accord. Voilà. Et alors, du coup, il y a une espèce de désordre, la poursuite du gain. Combien ça va me rapporter ? Oui, mais je vais déjà vous expliquer votre travail, peut-être. Non, mais combien je serai payé ? Je comprends, vous avez besoin de vivre, donc il y a un nécessaire dont on a besoin pour vivre. Mais c'est d'abord savoir que vous n'allez pas vous engager comme médecin sous prétexte que c'est mieux payé si vous n'êtes pas médecin. Parce que sinon, vous allez tuer les gens, vous n'allez pas les soigner. Donc, le gain, ce n'est pas la première chose qui vient. Une fois encore, je ne condamne pas le fait d'avoir un gain. Dans une entreprise, on peut pas fabriquer ni vendre à perte. Donc évidemment, quand on fabrique quelque chose, il faut que ça puisse rapporter un petit bénéfice, de sorte qu'on puisse, qu'une fois qu'on ait payé tout le monde, qu'avec justice, les ouvriers qui ont travaillé, les contremaîtres, les ingénieurs, ceux qui ont inventé la machine, enfin bon, que tout le monde soit payé, que le patron soit payé, eh bien, il faut qu'il reste encore un petit bénéfice pour pouvoir investir, continuer l'entreprise. Très bien. Mais c'est un critère du fonctionnement de la société. Ce n'est pas l'unique but du fonctionnement de la société. L'unique but du fonctionnement d'une société commerciale, c'est la vie de ceux qui y travaillent, qui puissent élever leur famille, qui puissent avoir une vie décente, qui puissent se loger, s'habiller, envoyer leurs enfants à l'école, etc. Le premier but de la société, ce n'est pas de faire du pognon. Bien sûr, il faut que ça marche. Il faut aussi intégrer ce critère. C'est un critère de fonctionnement. Ce n'est pas le but. Sinon, eh bien, voilà, on voit très bien à quoi ça amène. Le désordre total. Et quand dans une entreprise, on fait des calculs qui sont purement financiers, c'est un grand danger. Là, mais c'est facile de dire dans les entreprises, parce que nous aussi, on peut faire ce calcul purement financier. Mais voilà, dans les grandes entreprises, ça amène des horreurs. Moi, j'ai connu une société qui avait fait... Voilà, c'était deux grosses compagnies qui s'étaient rejointes. Alors, vous savez ce que c'est quand deux grandes compagnies se rejoignent? Eh bien, ceux qui sautent, en général, c'est les directeurs, les directeurs de succursales. Alors, est-ce qu'il y en a moins? Donc il faut se séparer d'une partie du personnel. C'est pas scandaleux, c'est la vie de la société commerciale, c'est normal. Mais on doit quelque chose en justice à quelqu'un à qui on dit « on va pas pouvoir... gardez tout le monde, on restructure notre société, on va vous donner ce qui est juste. » Seulement, évidemment, quand on est directeur, c'est beaucoup d'argent. Alors j'ai connu une société qui, plutôt que de payer ce qui était juste, parce que son but n'était pas la vie des employés, de sa société, son but c'était uniquement le gain financier, avait décidé que, eh bien, on les dégoûterait jusqu'à ce qu'ils craquent. Voilà, ça s'appelle une malhonnêteté, ça s'appelait la mort blanche, c'est-à-dire qu'on leur enlève leur secrétaire, on les convoque plus aux réunions, etc., jusqu'à ce qu'ils deviennent fous, qu'ils se suicident ou qu'ils craquent. Et ben ça, c'est à cause d'un appât désordonné du gain. On avait le droit de vivre la société, de changer, etc. C'est possible, mais chacun devait repartir avec ce qui lui était dû. Mais l'appât désordonné du gain fait que non. On va choisir la mort de ses employés, par exemple. Oui. Je ne fais pas de politique. Voilà. Et nous-mêmes, si nos relations sont gouvernées par l'appât du gain, on va se tromper. On va se tromper. Parce que c'est un des critères, bien sûr. C'est ça, j'imagine, que quand vous choisissez un travail, ben oui, il va falloir que ça vous fasse vivre, que vous puissiez payer votre loyer, votre nourriture, etc. Faites un calcul, évidemment. Si ce qu'on vous propose ne vous permet pas de vivre, il faut choisir autre chose ou revoir la manière dont vous vivez, c'est sûr. Le critère financier, une fois de plus, c'est un critère très opératoire. Mais ce n'est pas notre but. Parce que si c'est votre but... Vous savez ce qu'il faut faire, il faut vendre des kalachnikovs, c'est ce qui rapporte le plus. Ou de la drogue. Ben oui. L'appât du gain, ça marche très bien. Et encore, on peut aussi entretenir des maisons closes, il paraît que ça rapporte aussi pas mal. Bon. Alors évidemment, c'est dangereux. C'est très dangereux. Enfin, l'appât du gain n'est pas notre critère. C'est une avarice. 1 Timothée, chapitre 6, verset 10. Saint Paul met en garde. Hein. La cupidité est la source de tous leurs maux. Mensonge, fraude, parjure, violence, tyrannie, cruauté, procès, désordre. C'est un désordre, comme beaucoup de péchés en fait, hein, comme on l'a déjà dit et comme je le redis, c'est mal ordonner sa vie, c'est mal choisir. Les choses souvent sont neutres en elles-mêmes. La question c'est si on ne réfléchit que par cupidité, eh bien, on ne peut plus aimer sa grand-mère. On aime le portefeuille de sa grand-mère, donc, logiquement, on va attendre qu'elle meure. C'est la seule chose qu'on va espérer, pourvu qu'elle meure vite, hein, que je puisse avoir son héritage. La cupidité amène même au désir de mort. Ça peut aller jusque-là. C'est pas chimérique, malheureusement, ce que je vous dis. Quatrième manière de pécher, par avarice. Là, c'est très particulier, c'est de violer le vœu de pauvreté. Alors là, ça s'adresse à une catégorie toute particulière, c'est ceux qui ont fait le vœu de rien posséder, c'est les religieux. Et donc, ce n'est pas forcément posséder de grands biens. C'est, eh bien, voilà, contre la règle qu'on s'est fixée, qu'on a choisie librement, hein, quand on devient franciscain ou bénédictin, ben, on fait le vœu de ne rien posséder soi-même. Je suis allé ce week-end avec une cinquantaine d'enfants de cœur dans un monastère bénédictin. Et alors, une question des enfants hein, qui taraudaient, qui rencontraient les moines, « Est-ce que vous avez le droit de posséder un ordinateur ?» Et alors le moine, évidemment, il rigole parce que, d'abord, il venait de nous montrer qu'il savait très bien servir d'un ordinateur puisqu'il y avait un petit montage qu'il avait. Donc, il s'était servi d'un ordinateur. Donc, il avait montré qu'il était déjà pas manchot. Il sait se servir de la technique. Mais la question l'a fait rire. Est-ce que vous avez le droit de posséder un ordinateur ? Ah, il a commencé par lui dire, vous savez, d'abord, j'ai décidé de rien posséder du tout. Ça commence mal, votre question. Et donc, ce n'est pas une question de droit ou pas de droit. C'est que si j'en ai besoin, si je suis hôtelier, si je commande des choses pour l'abbaye, bah oui, la communauté va me dire, bah oui, tiens, toi, il faut que tu aies l'ordinateur. Voici un ordinateur. Il faut que tu t'en serves. Mais sinon, si je m'occupe des abeilles, ou j'ai pas besoin d'ordinateur. Enfin, je dis ça, j'en sais rien. Peut-être qu'il faut un ordinateur pour s'occuper des abeilles, c'est pas la question. Mais, vous voyez, les biens, en fonction de ce qu'on veut vivre, c'est pas une possession pour soi. Et puis, évidemment, dans le vœu de pauvreté que les religieux font, ben, ils ont fait le vœu de partager. Vous savez que si vous donnez à un moine de votre connaissance, de vos amis, eh bien, vous lui donnez 100 euros pour ses étrennes en disant, bon, ben, voilà, hein, quand même, parce que, hein, j'ai remarqué, ben, il ne va pas les garder pour lui. Il va les apporter à sa communauté en disant, voilà, on m'a donné 100 euros, donc, ils mettent tout en commun, comme dans l'Évangile, hein, et les premières communautés chrétiennes, c'est raconté dans les Actes des Apôtres, ils mettaient tout en commun. Voilà ce que vivent les religieux. Eh bien, si ce frère met dans sa poche les 100 euros que vous lui avez donnés, eh bien, il pêche par avarice. Alors que, mais pour une raison particulière, parce qu'il a fait un vœu. Alors pour nous, à quoi ça sert ça va nous apporter quoi, cet exemple? Puisque, a priori, ici, personne n'est bénédictin ou franciscain. Encore que je sais qu'il y en a qui vivent la spiritualité franciscaine, justement, ils vont comprendre. On n'a pas besoin d'être. On n'a pas fait ce vœu. Et comme je l'ai dit tout à l'heure en commençant, on a même besoin de posséder des choses, parce que notre condition fait qu'on doit posséder des habits, un manteau pour se couvrir. Mais c'est la question du détachement. Ce que nous montrent les religieux dans ce vœu un peu, je ne sais pas si j'oserais dire anormal, en tout cas, ce vœu qui n'est pas habituel pour la vie usuelle, eh bien, il nous est très utile pour nous, pour nous dire comment posséder les biens. C'est-à-dire, possidentes, quasi non possidentes, les posséder comme si nous ne les possédions pas. Ce que dit saint Paul. Hein. C'est-à-dire, avec le détachement nécessaire, qui fait d'ailleurs que, comme si on ne les possédait pas, comme s'ils n'étaient pas à nous, on en prend soin. On en prend soin, parce que peut-être il faudra les rendre. Donc, vous voyez, Il y a une certaine manière aussi dans la négligence des biens. Je l'ai acheté, alors je peux le casser. Non. Non, c'est pas parce que tu l'as acheté que tu as le droit de le casser. T'as pas acquis un droit de destruction de l'univers. Alors si je suis très riche, que j'achète un pays, alors j'ai le droit de le brûler. Non. Les biens de ce monde nous sont donnés de manière... Parce que nous sommes passagers. On n'a pas le droit de tout saccager. Sous prétexte que c'est mon argent, c'est mon or, c'est mon argent. C'est pas ton or, c'est ton argent, c'est l'argent qui t'est confié. Tu es riche, tant mieux. Dieu t'a confié beaucoup de choses, des talents. Vous savez que les talents, avant d'être le talent avec le jeu de mots, le talent c'est d'abord une monnaie, et c'est 100 pièces d'or, un talent. Donc c'est beaucoup d'argent. Et donc, nous les a confiés, c'est pour quelque chose. C'est pour les utiliser, pour les partager, pour faire vivre d'abord les nôtres, mais aussi ceux qui en ont le plus besoin. Voilà ce que nous apprend le vœu de pauvreté. Ce détachement total des biens qui est pour nous comme un phare qui nous indique que ce n'est pas les biens pour eux-mêmes. Cinquième manière et dernière manière, que j'ai listée, on pourrait sûrement en lister beaucoup d'autres, de pécher par avarice, c'est d'agir par cupidité. Voilà. C'est de n'avoir, ça revient un peu à la troisième manière, je vous l'accorde, c'est de n'avoir comme objectif d'action que la possession des biens. Et bizarrement, c'est très paradoxal, ça peut nous amener à notre propre ruine. Par exemple, dans le travail, on peut négliger son travail sous prétexte qu'il ne rapporte pas assez, pour se livrer à un petit commerce parallèle. J'ai connu quelqu'un qui, pendant son travail, faisait du commerce, d'autres choses, sur Internet. Bon, c'était illégal d'ailleurs, mais il a fini par être viré, parce qu'il ne faisait pas son travail. Donc, bizarrement, il a perdu la source de son revenu. Tout simplement parce que la cupidité l'avait fait se détourner de son propre office, de son travail. C'est finir par idolâtrer l'argent. Or, c'est très contraire à l'amour de Dieu, parce qu'on ne peut pas adorer deux maîtres. Voilà. Tout simplement, nous dit l'Évangile, on ne peut pas adorer Dieu et Mammon, ou alors on s'attachera à l'un et on détestera l'autre, ou alors on aimera l'autre et on se détachera de l'un. Voilà. On ne peut pas se fixer comme deux dieux. Il peut y en avoir qu'un. Donc, ou c'est Dieu qui est au-delà de toute chose créée, qui est transcendant, et alors on lui soumet dans notre vie tout ce qui nous permet d'arriver à lui, qui est bon. Ce monde est bon. Ce monde nous est donné pour que nous vivions, notre vie est bonne. Mais en vue de Dieu. En vue d'arriver à Dieu. Ou alors, on décide que c'est Mammon, c'est-à-dire c'est l'argent, c'est-à-dire c'est les biens de ce monde qui sont le but. Et évidemment, on ne peut pas adorer Dieu. J'étais très surpris quand j'étais au séminaire, j'avais fait un camp de ski avec des jeunes plutôt favorisés, qui habitaient tous, je ne veux pas dire de quelle école, mais ils habitaient tous... autour du musée du palais du Luxembourg, donc c'est pas les quartiers les plus défavorisés. Vous savez peut-être que c'est même les quartiers les plus chers de Paris, ceux qui donnent sur le jardin du Luxembourg. Et moi j'étais entré au séminaire depuis peu, et donc il y avait pas mal de jeunes qui étaient tous très sympathiques, comme toujours, ils sont tous très sympathiques. Mais j'avais été frappé par leur question, qui avait été vraiment pour moi une question. Ah, vous êtes séminariste, tu es séminariste, très bien. Et je m'attendais à des questions. Eh bien, la seule question qui m'a été posée, et alors, vous gagnerez plus d'argent ? Alors, bon, oui, bien sûr, ça entre en ligne de compte. Ça entre en ligne de compte. Mais aucun, sur la semaine de ski, ne m'avait posé la question, alors vous ne vous marierez pas ? Vous n'aurez pas d'enfant ? C'est quand même ça le plus extraordinaire, non ? Enfin, je ne sais pas. Et non, alors vous gagnerez plus d'argent. Je m'étais dit, l'horizon est bien bouché, quand même, pour ces pauvres enfants qui ont comme vue du bonheur eh bien, la caisse que je vais pouvoir amasser. Alors, évidemment, je les ai provoqués exprès. J'aurais dit, voilà, j'étais avocat, j'étais professeur de droit, je gagnais beaucoup d'argent. Je sais ce que c'est d'avoir beaucoup d'argent. Mais ça n'a pas beaucoup d'importance. C'est pas ça qui est vraiment important. Alors là, bon, je crois qu'ils n'ont pas compris. Hein. Enfin, bon, c'est un témoignage. Après, les gens ne sont pas obligés de, convaincre les gens. On leur dit ce qu'on fait. On n'est pas obligé de les convaincre. Hein. Mais rappelez-le à temps et à contre-temps. Hein. Les linceuls n'ont pas de poche. Quand on vous mettra dans un tombeau, vous n'emporterez rien. Et encore, le linceul, on vous le prêtera, parce que vous ne l'emportez pas, stricto sensu. Hein. Il va rester avec votre corps, là, dans le cercueil. Alors, on ne met plus un linceul aujourd'hui. On vous met une robe ou un costume, enfin, on vous met un de vos habits. Bon, bah, ça revient au même. Hein. Vous savez que vous ne l'emportez pas. Ou à la rigueur, vous n'emportez que ça. En tout cas, comme dit un de mes amis notaires, hein, les coffres-forts ne suivent pas les corbillards. Les corbillards partent, les coffres-forts restent à la banque. Transmis à d'autres. Et on n'emportera rien. Hein. On est venu tout nu, on va repartir tout nu. Alors, ça devrait quand même nous faire penser que les biens qui nous sont donnés, qui sont utiles, je le répète, encore une fois, je ne méprise pas les biens de ce monde. Aucun. Mais ils nous sont donnés pour vivre. Ils n'ont pas donné pour, je ne sais pas quoi, pour créer une autre vie, etc. Aussi puissant serez-vous, aussi riche serez-vous, vous ne pourrez pas rajouter une minute à votre vie. Ce n'est pas possible. C'est impossible. Vous ne pouvez pas acheter. Alors, il y a des gens qui y pensent, hein, parce que quand même, des gens qui y pensent. Hein, il y a des gens qui pensent à, j'ai lu dernièrement, hein, à se faire cryogéner, je ne sais pas quoi. Ça me paraît très aléatoire. Hein. Alors, la dernière invention que j'ai lue, je ne sais pas si c'est sérieux ou pas, c'est de transporter son cerveau dans un autre. Voilà. Alors, bon, évidemment, l'autre que vous allez acheter, j'imagine, vous allez lui vider le cerveau, enfin, je ne sais pas trop. Enfin, vous voyez où amène l'avarice, d'ailleurs, et l'espèce de cupidité. Enfin, là, il n'y a pas que l'avarice, il y a la question de notre propre vie. Hein. Mais, bah, de toute façon, voilà, l'argent que vous avez n'achète pas tout. Je connaissais quelqu'un quand j'étais jeune qui m'a impressionné quand même sous un certain rapport. Il était fort riche, il avait une très grosse entreprise, une très belle voiture, etc. Et alors c'était ça. Tout homme a son prix. Alors, quand il m'avait dit ça, avant je l'admirais un peu parce que certaines puissances, c'est vrai, c'est impressionnant quand même. On se dit, ah, belle vie. Mais qu'on en arrive à dire, tout homme a un prix, et alors, évidemment, comme c'était quelqu'un de très docte, ça dépend du montant. Ça dépend du montant. Ça m'avait laissé rêveur. Parce que je connais encore cet homme, hein, 30 ans plus tard. Effectivement, c'est comme ça qu'il a vécu. Il a acheté, des femmes aussi d'ailleurs, il les a achetées. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est plus ou moins concernant. Mais c'est-à-dire qu'il n'a jamais réussi à avoir de l'amour. C'est-à-dire qu'il n'a pas pu fonder de famille, personne ne l'a jamais aimé. Ah oui, on a aimé cette bonne guerre, hein, comme lui pensait que c'était l'argent, les femmes qu'il a rencontrées le pensaient aussi, et voilà, c'était une entente provisoire, n'est-ce pas ? Mais ce n'était pas de l'amour. D'ailleurs, et voilà, et donc aujourd'hui, cet homme, je le plains beaucoup, hein, il est très malheureux. Il est très, très malheureux. Enfin, d'ailleurs, je ne sais pas qui était le plus malheureux des femmes qu'il a rencontrées ou lui, ça, je ne veux pas le savoir, mais en tout cas, quelle tristesse de la vie de penser que c'est. Il y a un prix. Voilà. Penser qu'on puisse acheter l'amour est totalement contraire à la nature de l'amour, qui est un acte libre, intérieur, et donc qui, à mon avis, exclut et la violence, qui exclut toute violence, et donc l'argent, qui est une violence faite sur les gens. On ne peut pas commercer l'être humain, rappelons-le, même si malheureusement, eh bien, ça arrive. Alors, quels sont les châtiments, puisque j'en suis arrivé là, finalement, de l'avarice ? J'en vois trois. D'abord, il est tout naturel, c'est le souci des biens de ce monde. Eh oui, parce que, évidemment, ces Picsou, je reviens toujours à cette magnifique figure philosophique qui est Picsou, et plus profond qu'il n'y paraît, il est extrêmement anxieux, Picsou. Il est toujours soucieux. Ben oui, il est soucieux qu'on lui pique qu'on l'envie. Et quand ses neveux sont gentils avec lui, il soupçonne que c'est parce que c'est par cupidité. Enfin, voilà. Et toujours, voilà. Pas de bonheur possible. Hein. Il s'inquiète de ses biens. Il s'inquiète sans cesse de ses biens. C'est ce propriétaire dans la parabole de l'Évangile qui, ayant reçu une récolte tout à fait exceptionnelle, beaucoup plus importante que d'habitude, se dit « mes greniers ne sont pas assez grands, je vais les détruire, je vais en construire de plus grands pour pouvoir mettre toute cette réserve, comme ça je ne travaillerai plus jamais, je vivrai tranquillement de mes rentes. Insensé que tu es, lui dit l'Écriture, insensé que tu es, ce soir même on te redemande ta vie. Tes biens, qui les aura ? C'est de mon vivant que je dois y penser, à cette répartition des biens. Le reproche que Jésus fait à Marthe, hein, tu t'inquiètes pour bien des choses. Voilà. Il ne lui reproche pas de travailler, il reproche de s'inquiéter. Là, ce n'est pas sur la question de l'argent. Hein, mais voilà. Le premier châtiment de l'argent, c'est l'inquiétude. Ne pas connaître de repos. Car notre cœur ne se repose tant qu'il ne repose en Dieu. Et donc, s'il repose sur notre portefeuille, eh ben, il va être inquiet. Tous les matins, en se levant, première prière de l'avaricieux, c'est d'ouvrir BFM et puis de regarder le cours de la bourse, savoir combien il a perdu ou combien il pourrait gagner. Voilà. Avant de penser peut-être à prier le Seigneur ou penser aux siens, à ceux pour qui il pourrait avoir un peu d'attention. J'ai rien contre BFM TV, mais je crois que c'est une source inépuisable d'informations sur la bourse. Deuxième châtiment de l'avarice, le désespoir de Dieu. Eh oui, à force de n'espérer que dans son argent, eh bien, on désespère de Dieu, parce qu'on ne peut pas adorer l'un et l'autre. Pour avoir trop aimé l'argent, Judas a désespéré du Christ. Pour avoir trop aimé l'argent, vous le savez, Judas, tout au long, on nous le prépare, hein, de l'Évangile, s'insurge contre une femme qui répand un parfum précieux sur les pieds de Jésus. Et il dit, oh là là, si on avait donné cet argent aux pauvres, on aurait pu faire beaucoup de bien. Mais l'Évangile nous dit, il ne disait pas ça parce qu'il avait souci des pauvres. Il disait ça parce qu'il tenait la caisse commune et qu'il était voleur. Vous voyez, source de tous les maux, sa cupidité l'avait fait mépriser une action bonne. Et donc Judas ira jusqu'au bout de ce désir désordonné de l'argent, il va vendre son maître. Par cupidité, 30 deniers. Pour acquérir quoi finalement ? Un champ dans lequel il se pend. Parce que cet amour de l'argent, eh bien, l'a empêché de retourner au Christ en lui demandant pardon. Il n'est pas le seul à avoir trahi le Christ. Mais lui n'a pas voulu y retourner, attaché à son péché. Il a pourtant, il y a un indice, il essaye de le rendre à un moment. Il essaye de le rendre au grand prêtre. Il dit, cet argent est sale, j'en veux plus. Il se rend compte, Judas, que c'est ça qu'il a perdu. Mais les grands prêtres n'en veulent pas. Non, c'est l'argent du sang. Nous n'en voulons pas. Et donc, ça deviendra le sien de sang. Il se pend. Troisième châtiment et de l'avarice, eh bien, c'est la séparation, c'est la conséquence d'avec Dieu. C'est la parabole de Lazare et du mauvais riche. Du mauvais riche qui, durant toute sa vie, festoie, ripaille, boit et mange et méprise le pauvre Lazare qui est à sa porte. Une fois de plus, l'Évangile est fin. Hein. Il ne condamne pas ce riche parce qu'il est riche. Il ne condamne pas ce riche parce qu'il a mangé. Il condamne parce que c'est un mauvais riche. Ça veut dire qu'il y a des bons riches. Il condamne ce riche parce qu'il a méprisé le pauvre qui était à sa porte. Il aurait bien voulu se nourrir des restes de la table. Des restes, hein, de ce dont on ne voulait plus. Mais c'était les chiens qui léchaient ses plaies. Eh bien, il est définitivement séparé de lui, Lazare en enfer, et ce pauvre auprès de Dieu. Non, c'est l'inverse. C'est Lazare. C'est parce qu'on ne connaît pas son nom dans les... Lazare auprès de Dieu et ce riche en enfer. Alors, comment faire? Pour finir sur une note plus gaie, quand même, hein. Comment faire? Parce qu'il y a toujours des solutions. Il n'y a pas de maladie spirituelle qui ne soit curable durant notre vie. Donc, avec la grâce de Dieu, tout est possible. Premièrement, c'est le détachement des biens de ce monde. Voilà. Il faut se détacher des biens de ce monde. Qui ne veut pas dire ne pas les posséder, mais s'en détacher. C'est pas toujours si facile. C'est pas toujours si facile. Alors, pour ça, il faut faire quelques exercices. Il faut faire des exercices fréquents. Le premier, ça s'appelle la libéralité, c'est-à-dire de donner. Parce que quand on donne, vous voyez, c'est comme quand on fait des exercices physiques, on s'habitue à la souplesse du bassin, là, on s'habitue à la souplesse du détachement des biens de ce monde en donnant régulièrement. Moi, je vous conseille de donner souvent. Pas forcément des sommes faramineuses, c'est en fonction de l'état de fortune de chacun. Je ne fais pas une étude, c'est pas des comptes en banque, mais tous les mois, vous pourriez vous dire, tiens, ce mois-ci, combien puis-je donner que dont je n'ai pas besoin, hein. Après avoir fait votre épargne nécessaire en fonction de votre vie, un petit budget, dire, bon, là, il faut que je garde, là, il y a les vacances, il y a ceci, très bien. Combien je peux donner? Si c'est 10 euros, donnez 10 euros. Si c'est 5 euros, donnez 5 euros. Si c'est plus, donnez plus. Mais vous voyez, de temps en temps, très bref, faites-le tous les deux mois, enfin faites-le quand vous voulez, mais faites-le de temps en temps. Habituez-vous à dire, finalement, qu'est-ce que je peux donner? Vous voyez, c'est pas l'important, c'est pas... c'est comme la pauvre veuve qui donne... Et c'est pas de savoir si vous allez donner combien, etc., que votre nom soit inscrit, je sais pas où, s'en fiche. La question, c'est, est-ce que habituellement vous êtes capable de vous dire, régulièrement, tiens, là j'ai un peu trop, je donne. Ça, j'en ai pas besoin. Ça, j'en ai pas besoin. Je vais le donner. Faites, c'est comme un exercice. Plus vous le ferez souvent, hein, et puis si vous le faites toutes les semaines et que chaque semaine vous donnez 1 euro, c'est bien, faites-le toutes les semaines. Vous voyez? C'est pas une question de quantité, c'est une question. Bon, toutes les semaines, ça fait beaucoup, hein, à mon avis. Enfin, bon, ça ferait ce que vous voudrez. Mais habituez-vous à dire les biens que je possède, c'est pour vivre. Si j'en ai pas besoin, je m'en sépare. Voilà. Je n'y suis pas attaché. Moi, j'ai connu un prêtre. Alors ça peut porter sur tous les biens. Il y a l'argent qui est le vecteur de transformation des biens, mais ce n'est qu'un vecteur. Après, il y a les biens de ce monde. Hein, quand vous possédez par exemple 10 montres, au bout de 10 montres, vous vous demandez à quoi ça sert d'avoir 10 montres. Hein. Alors, au bout d'un moment, vous pouvez en donner peut-être une ou deux, je ne sais pas. Enfin, une idée. Hein. Je connaissais un prêtre qui aimait beaucoup les livres. Ça me touche beaucoup parce que ça me parle. Et un vieux prêtre, un saint prêtre, voilà, c'est le père Schneider, ça j'aurais dit son nom, et il avait plein de livres, plein, grosse bibliothèque, mais c'est vrai qu'il lisait beaucoup, il en avait besoin, il lisait souvent, il lisait beaucoup des livres, pourtant il était vieux, mais il lisait toujours tous les trucs qui sortaient, alors parfois n'importe quoi, mais enfin il lisait des choses intéressantes, il s'intéressait beaucoup aux différentes spiritualités, aux différents ordres, aux nouveaux, machin, etc. Très, très ouvert, il lisait des tas de choses. Et puis un jour, il a fallu qu'il déménage, qu'il aille à l'hospice. Et alors, il a convoqué... j'arrive un jour chez lui, parce que je m'occupais un peu de lui, j'habitais pas loin, et je vois des gens chez lui qui étaient en train de tout déménager, mettre tout dans des cartons, tous ses livres, etc. Et je n'étais pas prévenu. Alors je dis, mais que faites-vous? Où est-ce que vous emportez? Parce que je savais que c'était un trésor pour ce prêtre, que tous ses livres... Et il dit, le père nous a dit de tout emporter et hop, de tout donner à tel couvent. Ah bon? Je dis, mais pas tout. Il a dit tout. Il a dit tous les livres. Mais je dis, c'était pas possible. Puis, j'ai fini par le trouver. Je dis, mais mon père, il faut que vous gardiez une Bible. Il faut que vous gardiez les confessions de Saint-Augustin que vous aimez tant. Il faut que vous gardiez. Il m'a dit, tu crois? Ben, je dis, oui, vous allez quand même garder. Alors bon, à force de batailler, je lui ai fait garder une dizaine de livres, quand même. Alors, il avait sa Bible, il avait prévu quand même. Mais tout le reste, hein, et il a dit, vous prenez tout. Alors, moi qui le croyais, hein, vous voyez, on peut se tromper, hein, moi qui le croyais tellement attaché à tous ses livres, etc., il n'était pas attaché. Il les possédait pour le bien, c'est-à-dire autant que ça lui était utile dans son ministère, quand ça lui a pu être utile, tout donné, tout, le même jour, tout, terminé. Voilà, hein, une possession des biens. Et puis alors donc, on peut aussi faire un examen sur la nécessité des biens qu'on possède. Parce que souvent, en fait, on se fait beaucoup d'illusions. On croit qu'on a besoin de tas de trucs, et puis finalement, on n'a pas tant besoin que ça. Il y avait une petite habitude de gens que je connaissais bien, qui était de faire le... Alors ça, pour les femmes, ça va être très dur, mais je parle pour les hommes, là, uniquement. Après, vous transposerez pour les femmes. C'est un peu différent, je pense. Pour des hommes, en tout cas, ça marche. Faire l'inventaire de son placard à vêtements une fois par an. Et la règle, c'était ce que j'ai pas mis dans l'année, j'en ai pas besoin. Voilà. Alors, je sais pas si ça vaut pour les femmes. Je sais pas. Vous me direz. Bon, je sais pas. Mais ce que j'ai pas mis dans l'année, il y a quand même des chances que j'en ai pas un gros besoin. Voilà. Bref, je vous encourage à la fois à la générosité et à la fois à ne pas vous attacher aux biens de ce monde comme si c'était ça qui devait vous faire vivre. Voilà. C'est ça qui nous permet de vivre. Mais ce qui nous fait vivre, c'est Dieu. C'est l'esprit qui nous est donné, c'est notre âme, c'est l'amour qu'on peut échanger de cette âme en état de grâce. Et voilà. Et évidemment, c'est une tentation naturelle, car nous sommes corporels, et donc on est tout en bas, on est attaché au bien de ce monde. Mais battez-vous avec énergie, parce que le vrai bonheur, il y a plus de bonheur, dit Mère Teresa, à donner qu'à recevoir, et c'est vrai. Il y a beaucoup plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Moi, il m'a été difficile pendant longtemps de demander aux gens de donner de l'argent, parce qu'après, quand on fait des œuvres, quand on, etc., mais d'abord, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas vivre avec... c'est pas toujours facile. On vit un petit peu de la charité, quand même. Voilà. Quand on demande toujours à l'Église, il faut donner pour ci, il faut donner pour ça. Bon, on peut se trouver gêné. J'ai fini par me rendre compte que la grande chance, c'est de pouvoir donner. Donc, en fait, quand vous proposez aux gens d'être généreux, quand vous proposez aux gens de se détacher des biens de ce monde, sachez que c'est vous qui leur faites la charité. Vous leur faites cette charité essentielle de pouvoir se détacher de leurs biens. Alors, ces biens doivent être utilisés avec justice. On ne doit pas se détacher de ces biens, ce n'est pas ouvrir la fenêtre et jeter son argent par la fenêtre. Ce n'est pas ça, la justice. Ce n'est pas ça, ne pas être avaricieux. Ne pas être avaricieux, c'est pouvoir vivre librement sans être asservi aux biens qui nous servent justement à vivre. Que la Vierge Marie, elle qui a connu dans le voyage de sa nativité, de la nativité, qui a connu dans l'exil en Égypte, qui a connu auprès du Christ, qu'elle a suivi partout jusqu'au dénuement de la croix, l'exercice même de cette pauvreté, qui n'est pas une misère. Nous autres, les chrétiens, nous ne vénérons pas la misère. Au contraire, nous battons contre la misère, partout. Mais nous voulons vivre pauvrement la possession des biens de ce monde, car nous sommes persuadés que ce n'est pas eux qui peuvent rassasier notre âme, mais seul l'amour que Dieu nous donne. Amen.